Alors, dans ce prochain segment, on va vous parler d'un documentaire, mais c'est un documentaire coup de cœur. Je l'ai regardé à la fin de la semaine dernière. Ça s'appelle Emmenez-moi. Emmène-moi plutôt. Ça raconte une histoire de randonnée, une randonnée avec, entre autres, une personne qui a des difficultés. Donc, on l'a amené en joëlette, une randonnée de 96 km en 4 jours à travers montagne, pluie, etc. Et on reçoit la réalisatrice Claudie Simard. Et Madame Simard, avant de commencer notre conversation, j'ai déjà parlé à Fernand Courchesne, qui organise aussi des randonnées un petit peu de ce type-là. Il fait le défi Everest Orford avec des personnes à mobilité réduite comme ça. Et je l'avais traité de fou heureux en entrevue une fois ici. Alors, je vous retransmets le compliment.
Effectivement, il y a beaucoup de folie et beaucoup de bonheur, non seulement dans le film, mais avec la gang en général, effectivement.
J'imagine. Alors, racontez-nous en quelques mots, évidemment, l'histoire de Samuel, de sa joëlette et de l'équipe qui l'a entouré pour faire ce périple complètement hors de proportion.
Oui, bien c'est sûr que l'histoire narrative, c'est-à-dire qu'est-ce qui se déroule, c'est l'histoire d'un groupe qui choisit d'emmener Samuel vivre pas une petite balade en forêt, mais vraiment un défi de taille là, dans un autre pays, à l'île de la Réunion. L'île de la Réunion, ça se trouve à l'est de l'Afrique. Ça a pris deux vols de 11 heures pour se rendre. C'était vraiment très, très loin. Et ce défi-là de 4 jours est colossal aussi. Et de prime abord, quand on entend parler de cette histoire-là, on peut se dire, OK, oui, ça a l'air fascinant, mais qu'est-ce que ça raconte finalement, ce film-là? Pourquoi, quel intérêt j'aurais à regarder des gens qui font un exploit sportif? Puis je me suis posé la question dès que j'ai entendu parler de leur projet il y a plus de 2 ans maintenant. Dès que j'ai entendu parler de ce projet-là, je me disais, bof, moi, là, les exploits sportifs, ça vient pas me chercher, ça m'émeut pas autant que d'autres. Puis je voulais passer mon tour, mais j'avais une petite voix interne qui me disait, ça me dérange un peu, j'ai envie d'aller quand même en savoir davantage. Puis j'ai rencontré Éric Sévelec, qui est un des. Finalement, il se dit la bougie
Oui,
d'allumage,
c'est lui
celui qui a
qui a...
eu cette idée et
C'est le
qui
fou en
a.
chef, lui, hein?
Le fou en chef qui a embarqué dans son groupe des gens comme ça au fil du temps. Puis là, je me suis rendu compte en leur parlant, entre autres avec Sylvie aussi. Bon, il y a plein de gens dans l'organisation, Frédéric Michaud. Et là, je leur parlais, puis je me disais, ben OK, j'ai vraiment pas le bon scénario. Donc, quand j'ai compris que c'était vraiment une histoire de courage, d'inclusion, pour briser l'isolement, pour montrer que c'est possible, pour faire passer les gens de l'individualité à la collectivité, ça m'a interpellée. Ça, c'était universel. Ça, je trouvais ça important. Donc, au lieu de se poser la question pourquoi on ferait ça, je me suis posé la question et surtout, mettons, qu'est-ce que ça donne? Mais moi, ma question, c'est qu'est-ce que ça peut nous enseigner de les regarder?
Oh mon
Qu'est-ce
Dieu,
qu'on peut
oui.
apprendre en les regardant faire? Et on apprend beaucoup de choses.
Ah oui, tout à fait. Mais avant d'arriver là, de quelle façon les planètes se sont alignées pour que vous soyez au courant de ce projet-là et que vous sentiez qu'il y avait peut-être un lien à faire avec un documentaire?
Bien, vous savez, les histoires, elles arrivent de partout. J'étais en train de marcher en montagne, justement, avec mon amie Mélanie, mon amie Annie, et puis on était au Mont Anne, qui est dans la région de Victoriaville,
Oui.
au centre du Québec. Et ça donne que c'est les gens majoritairement viennent de là, ceux qui ont fait le trek. Et elle me dit, ah, ma cousine Bianca, son chum Pierre-Luc, qui a embarqué dans un projet de fou, puis là, elle m'a parlé de ça comme ça. Donc, c'est venu à mon oreille de cette façon-là. Ensuite, j'ai trouvé des articles dans le journal local, j'ai découvert le réseau Autonomie Santé, et c'est ce qui m'a mené là à contacter Éric Sévelec, Sylvie et Frédéric aussi pour parler vraiment de l'organisation de ce voyage-là.
Moi, ce qui est, en fait, il y a beaucoup de choses qui m'ont touché, mais j'ai beaucoup aimé aussi la structure. On passe du temps dans la préparation, après ça, la réalisation du projet et la fête en arrière. Comment vous avez établi cette approche-là? Est-ce que c'est en discutant avec les gens concernés?
Bien, en fait, pour moi, c'est vraiment important en scénarisation de bien établir parce que c'est un film que je voulais rassembleur. Puis donc, il faut qu'on prenne le temps de connaître les gens puis qu'on s'y attache à ces gens-là avant de vivre l'aventure. Je trouvais ça. J'aurais pu faire un film qui se déroule exclusivement à La Réunion. On aurait pu construire l'histoire de cette façon-là.
Oui.
Mais j'avais envie de passer beaucoup de temps ou le plus de temps possible en amont pour qu'on puisse comprendre c'est quoi la réalité. Entre autres de Samuel mm-hmm. qui vit avec le syndrome de Louis Barre, c'est quoi la réalité des gens en situation de handicap, pour qu'on puisse après ça prendre la mesure de l'impact d'une aventure comme celle-là dans leur vie, dans leur qualité de vie, dans leur sentiment d'appartenance à une communauté, tout ça, là, ça. Et je parle de Samuel, mais en fait, c'est que tout le monde a été transformé par cette aventure-là.
Exactement,
les
oui.
Les gens qui ne cherchaient pas à briser l'isolement, se sont découverts finalement un sentiment d'appartenance au groupe en disant hey, j'avais pas vu ça venir. C'est ce qui est beau avec non seulement avec le documentaire, mais avec des aventures comme celle-là, c'est qu'on vit une transformation. Moi aussi, l'équipe aussi, moi je m'en allais là avec l'idée, bon, mais je vais aller capter des images, regarder des gens, les observer.
Mm-hmm.
Mais ils m'ont émue. J'ai été moi aussi transformée. Le regard que je porte sur Samuel est différent quand je l'ai rencontré. Moi, je n'ai pas dans mon entourage des gens en situation de handicap. J'avais un certain malaise. Je ne savais pas comment m'adresser à lui. On ne se connaissait pas. Et puis, au fil du temps, des rencontres, non seulement on se connaît, Samuel et moi, mais quand je vois Samuel. Je ne vois plus une personne en situation de handicap.
Oui, oui, tout
ça, c'est
à fait.
Un procédé que beaucoup de gens qui gravitent autour de l'univers des personnes justement en situation de handicap connaissent. C'est un procédé qui est connu, mais moi, je l'ai vécu. Et il y a d'autres gens qui l'ont vécu et il y a plein de gens justement qui ont été transformés par ces rencontres-là.
Tout à fait. Je voulais savoir comment les... Puis d'ailleurs, j'ai réalisé qu'après avoir vu le documentaire, cette personne dont je me souviens du nom, c'est Samuel.
Ouais.
Tous les autres, c'est des gens qui se sont donné la main, littéralement, vraiment, pour que ce projet-là se réalise. Et leur nom est plus ou moins important dans cette réalisation-là, mais l'ensemble est vraiment crucial. Mais je voulais savoir comment les gens ont réagi avec la caméra, avec le micro. Je pense à une scène en particulier où il y a une participante qui se demande si, à la fin de la première étape, si elle va continuer. Et
ouais.
Il y a son malaise physique, puis en même temps, elle dit « je ne veux pas laisser tomber le groupe ». Est-ce qu'elle a tout simplement oublié qu'il y avait une caméra? Comment ça fonctionnait?
Bien, j'ai été témoin de ce que je pense beaucoup de cinéastes de documentaires cherchent, c'est-à-dire cette barrière-là qui tombe où on oublie tous la caméra. Ce qui compte, c'est le lien qu'on construit. C'est d'Anne-Marie dont vous parlez, Anne-Marie. J'ai eu la chance on a connecté rapidement avec sa conjointe Stéphanie aussi.
Mm-hmm.
Il y a eu cette espèce de connexion humaine-là très rapide avec pas mal tout le monde, je trouve. Puis ça fait en sorte qu'on se voyait, on allait au Québec, d'où l'importance aussi de les fréquenter au Québec. Vous dites, c'est spécial, on a assisté à une scène, on avait l'impression que la caméra n'était pas là. Ils l'ont oublié, oui.
Oui, tout à fait.
Ils l'ont oublié parce qu'elle était Olivier qui était le directeur photo, Sylvain qui était le preneur son. Ben, on faisait partie de la gang. C'est ce qu'ils nous avaient dit avant qu'on parte. Ils nous comptaient comme membres du groupe. Donc, le fait qu'on les a fréquentés en amont, le fait qu'on a établi des liens, qu'il y a vraiment une relation qui s'est développée, une belle amitié, ben, ça fait en sorte que rendu dans l'aventure, on était avec eux. On n'était pas là en les observant. On était vus comme des alliés. Puis je pense que ça transparaît dans le film.
Oh oui, ça, c'est sûr, certain. Maintenant, on voit très bien dans le film les difficultés. Je pense, entre autres, les scènes où il y a de la pluie, où c'est glissant, tout ça. Et on voit très bien, effectivement, les difficultés et l'entraide que chacun apporte pour faire avancer le groupe. Puis, j'arrêtais pas de me dire, ouais, mais il y a quelqu'un qui est en train de filmer, il y a quelqu'un qui est en train de prendre du son. Techniquement, ça doit être aussi tout un exploit de faire ça.
C'était un tournage de haute voltige, je vais le dire comme ça, certainement, mais on a un petit secret à vous révéler. Il y a aussi des moments qui ont été captés par les participants. Nous, on ne pouvait pas être 24 heures sur 24 avec eux pendant le défi pour des raisons physique. Nous, on avait besoin de dormir pour pouvoir retourner au travail.
Oui, oui.
Mais il y avait aussi le fait que les batteries du matériel devaient se recharger pour qu'on puisse repartir. Et que comme ça, en montagne, pendant 24 heures, on avait besoin de sources d'énergie. Donc, il y a des moments où on les quittait. On allait faire le plein d'énergie pour les batteries, le matériel. On faisait les cartes mémoire, on rechargeait tout ça. On rechargeait nos propres batteries aussi. Et on retournait les retrouver à des points de rencontre. Ils ne savaient pas les moments où on allait les retrouver. On leur a réservé quelques surprises. Entre autres, il y a un moment où on est allé les rejoindre en montagne où il n'y a pas de route. Et on a pris un hélicoptère. Donc, eux ne s'attendaient absolument pas à ce qu'on soit là.
Oui,
ils nous ont retrouvés, la joie.
Ils
étaient contents parce qu'ils savaient qu'ils arrivaient. On devenait un peu cette espèce de... S'ils nous voient, c'est parce qu'ils sont bientôt arrivés à un point de ravitaillement. Donc, ça, on nous a dit, ça nous motivait quand on vous voyait parce qu'on savait qu'on arrivait bientôt à quelque part où on allait pouvoir se reposer. Donc, et il y a des participants qui avaient des GoPro. Nous, on avait la production installée du matériel, des GoPro, des micros sur eux. Donc, nous, on essayait de capter pendant qu'on n'était pas là. Mais les participants eux-mêmes aussi avaient, il y en avait quelques-uns là, qui avaient leur propre GoPro et qui ont capté des moments. Et heureusement, parce que notre matériel est arrivé, il y a toujours des pépins techniques en tournage, souvent. Et il y a eu un moment où la caméra a carrément été arrachée parce qu'ils sont tombés. Ils ont vraiment eu chaud. Mm-hmm. Puis ils ont eu peur et ils se sont agrippés, puis la caméra est tombée. Donc, notre caméra était non disponible pendant qu'on n'était pas là, mais par chance, eux avaient la leur. Donc, il y a des moments, comme vous dites, on se dit, mais voyons, la caméra était là tout le temps. Mais il y avait nous, il y avait des fois notre matériel et d'autres fois le leur.
D'accord. Je pense que ça me donne le goût de le revoir juste pour essayer de deviner quand est-ce que c'est. Est-ce qu'il y a des moments que vous avez été obligé de couper au montage puis que vous regrettez? Oh, j'aurais donc dû le garder.
Il y a toujours des moments magnifiques qui se déroulent sous nos yeux qu'on ne peut pas conserver au montage parce que lorsqu'on est en tournage, on explore plus quelques pistes quand même. Il y a eu une rencontre, entre autres, avant notre départ, qui s'est faite avec Denis. Denis, qui est une personne en situation de handicap depuis, je ne vais pas me tromper, il ne sera pas content, 24 ans, je pense, quelque chose comme ça, ouais, mais qui a eu une vie, il dit, c'est ma vie 2.0. Donc, lui, c'est un personnage...
Celui avec la jambe amputée?
Non, ça, c'est Stéphane. Denis, c'est ça, Denis ne fait pas partie
des
gens qu'on rencontre dans le film, mais on l'a rencontré en tournage.
Je vois.
C'est vraiment quelqu'un d'inspirant qui m'a marqué. Et Samuel nous disait à un certain moment, toute part de Denis, c'est lui qui est vraiment lui aussi une bougie d'allumage. Denis, c'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup d'initiatives, qui habite dans la région de Victoriaville, qui est de tous les événements. C'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire, mais malheureusement, au montage, aller rencontrer Denis nous éloignait un peu de notre focus qui est vraiment avec Samuel puis avec les porteurs. Parce que Denis ne faisait pas partie des porteurs. Mm-hmm. Il est lui-même en fauteuil roulant, mais il faisait partie de l'équipe de la logistique. Puis on avait envie, là. Moi, j'avais envie de le mettre à l'écran puis qu'on rencontre cette personne formidable. Mais malheureusement, il faut faire des choix scénaristiques aussi. Puis si on rentrait dans l'histoire de Denis, ben on s'éloignait de l'histoire de Samuel et des porteurs. Donc, on a fait le choix d'évacuer ça. Donc ça fait partie des choses qui arrivent quand on tourne un film. Il y a toujours des grands deuils. Des fois, c'est un moment, puis des fois, ben c'est quelqu'un qu'on aurait aimé présenter.
Et est-ce que, sûrement que l'équipe et Samuel ont vu le film, est-ce que ça a été présenté que sur Ami TV? Est-ce que ça a été présenté ailleurs?
Ça a été présenté pour le moment sur Ami Télé. Il y aura une autre diffusion qui viendra. Je vais laisser les gens concernés en faire l'annonce, mais il y aura d'autres diffusions à venir au cours des prochains mois, certainement. Vous allez entendre parler, je le souhaite, de tout cœur de ce film-là, Emmène-moi. Il y a également une version long-métrage documentaire qui est en production en ce moment. Donc, après avoir... parce que faut savoir, l'idée de film que j'avais au départ, Et c'était vraiment un long métrage documentaire, un peu d'observation où vraiment on est avec eux, mais il n'y a pas de narration. Moi, c'est l'idée que j'avais. Je voulais vraiment vivre l'expérience avec eux. Puis en cours de route, pendant notre financement, on a rencontré Ami Télé, puis je trouvais que ça faisait tellement de sens de faire un film en version télé aussi pour Ami Télé, un film inclusif, alors qu'on parle d'inclusion. Donc on a eu la chance d'avoir comme partenaire Ami Télé pour poursuivre et tout ça. Donc il y a ce film-là avec le narrateur Bruno Blanchet qui existe.
Oui, très belle voix, très belle narration.
Oh, mais Bruno, il faisait partie de l'aventure à un certain moment, donc il nous le dit dans le film, il est entraîné avec eux, il a été touché, puis il a voulu continuer à les aider, à soutenir leur idée, à faire connaître leur projet. Donc ça c'est, pour moi, sa présence, est venue d'elle-même. Là, quand je l'ai contactée, je trouvais que ça faisait tellement de sens. Puis de sa belle voix, le ton aussi de Bruno Blanchet, puis un peu comique et tout ça, ça fonctionnait. Donc il y a le film qui existe. Il va exister sur d'autres plateformes prochainement. Il va exister aussi en version long métrage. Sans narration, vraiment une autre expérience, une autre façon de vivre l'aventure.
Ben, je vais sûrement suivre ça. Mais la réaction des gens de l'équipe, comment ça a été quand ils se sont vus sur l'écran?
J'ai trouvé ça vraiment, pour moi, c'est là où je peux enfin vérifier si j'ai bien fait mon travail, c'est-à-dire de les voir réagir. Les gens ont été tellement touchés. On a fait un visionnement de groupe chez Claudette, qui est une des participantes, je dirais, de l'équipe logistique. Donc, elle était avec nous à la réunion, Claudette, puis elle a organisé ça chez elle. On s'est rassemblés, on était une vingtaine. C'était tellement beau. Les gens ont ri, ont pleuré. J'étais contente de les entendre rire au moment où je me disais, d'après moi, ça va être un moment drôle. Donc, tout le monde a bien ri. Et ça a été très émotif. Ils étaient, je pense, en tout cas, j'ai senti qu'ils étaient très contents de voir cette, et très reconnaissants de voir leur aventure portée à l'écran. Parce que c'est tellement fort. Quand on dit quelque chose comme ça, c'est très, très fort. C'est vraiment puissant.
Oui.
Tu essaies de le communiquer par la parole, en le racontant à des amis. C'est difficile à expliquer ce qu'on a vécu. Et donc, je pense que le film vient comme un peu prendre le relais de cette parole-là pour dire, ben, tiens, tu veux savoir ce que j'ai vécu, va voir ça, ça va peut-être te donner une idée. Donc, c'est ce que je souhaitais. Puis, de ce que j'ai compris, ça avait fonctionné.
Oh oui, ça concrétise de façon assez spectaculaire qu'est-ce que c'est que de l'inclusion, mais aussi qu'est-ce que c'est le travail d'équipe. C'est vraiment frappant. Alors, si on est impatient, si on veut voir tout de suite, c'est sur le site de Ami et Télé. C'est comme ça que je l'ai vu en fin de semaine. Et sinon, ça s'appelle Emmène-moi. Et si vous en entendez parler, n'hésitez pas. Il n'y a pas d'hésitation à avoir d'aller voir ce film-là. Merci beaucoup, Claudie Simard, pour ce beau témoignage, cette belle conversation.
Merci à vous de m'avoir permis de parler de tous ces gens formidables que j'ai rencontrés puis de les mettre en lumière.
Merci beaucoup.
Au revoir.